On va reprendre le fil de nos échanges. Alors, des personnes sont venues me voir en me faisant remarquer avec bienveillance que j'avais manqué à tous mes devoirs parce que je ne m'étais pas présenté. Alors, je suis journaliste et je ne suis absolument pas conteur, mais j'ai eu la chance de découvrir l'univers du conte grâce comment à Sylvie Mombeau. Voilà, que je connais depuis un certain nombre d'années. Et donc, vous aurez compris que c'est un accélérateur quand même pour découvrir cet univers dans toutes ses facettes, toutes ses dimensions. Merci encore à elle de m'avoir offert une transition sur un plateau, puisque effectivement, là, nous allons alors relever un
Non.
défi. Relever un défi incroyable. Il n'y a que la fondation de la MSH pour nous proposer un tel défi, c'est de poursuivre l'exploration des mille et une nuits, du conte des mille et une nuits, en, désolé de le rappeler, en 40 minutes. On va tâcher quand même de le relever.
Oui,
Relever un
ce
défi
défi.
d'autant plus délicat que nous sommes ici avec Aboubakr Chraibi, qui est, pourquoi ne pas le dire, the spécialiste du conte des mille et une nuits, et qui est, je dois dire, une quasi-terreur pour un animateur. Parce que quand on l'écoute, je l'écoute, je n'ai qu'une envie, c'est de me lever, de me mêler au public et de boire ses paroles, comme j'aurais pu le faire avec les deux intervenantes d'ailleurs. Mais allez, on va relever ces défis et quitte à grignoter un peu de temps, nous exigeons de vous, pour commencer, the verdict. Sylvie Mombeau s'est quand même autorisée à proposer un des contes des mille et une nuits, de surcroît sous une forme orale, alors qu'on aura l'occasion d'y revenir. Au commencement du conte, il y a d'abord des manuscrits. On y reviendra. Mais comme ça, à chaud, comment avez-vous accueilli son interprétation?
Ben, personnellement, j'ai trouvé son interprétation excellente. Hein. Vraiment, j'étais ravi de l'écouter. Elle a vraiment pris en compte le récit cadre. Ce qu'elle a raconté, c'est un peu la signature des Mille et une nuits. C'est-à-dire que si on a une trace de ce récit cadre, on estime que c'est un texte des Mille et une nuits. Alors, ça peut être aussi un texte des 101 nuits, mais je ne vais pas compliquer les choses d'entrée. Hein. Je garde les 101 nuits pour plus tard. Donc, c'est un texte des mille et une nuits. Et elle s'y est vraiment prise de manière tout à fait admirable. Hein. J'étais admiratif. Hein. On a passé un très, très bon moment. Et je me suis dit, mais pourquoi ne continuerait-elle pas finalement?
Elle reviendra, elle reviendra.
Voilà. Vous voyez, tellement j'étais heureux de l'écouter. Hein. Bon, alors maintenant, si je veux être technique, revenir par exemple sur des moments clés dans le récit cadre des Mille et une nuits, tel qu'elle, elle l'a formulé. Par exemple, elle a dit que l'épouse du cadet donc le cadet Schahzaman, son épouse lui a dit aussi des mots de tendresse, d'amour, etc. avant son départ. Bon, une conteuse ou un conteur doit donner de la chair à l'histoire qu'elle raconte, bien sûr. Mais dans les textes, jamais les femmes qui trompent leur mari, ou très rarement, en tout cas pas dans le récit cadre, leur signifient leur amour. Voilà. Donc, il y a quand même un peu de, il y a une certaine, c'est-à-dire un mari averti devrait quand même se poser des questions. Voilà. Alors, donc, ça, c'est un détail, mais je me permets de le souligner, mais dans le drame qui était tissé devant vous, c'était parfait. C'était quelque chose, mais dans le texte, ce n'est pas tout à fait ça. La deuxième chose, c'est pourquoi le mari revient, le premier, le jeune, le cadet. Alors, il revient chercher un joyau, hein, si je ne me trompe, hein, c'est ce qui a été raconté, il revient chercher un joyau, et il va le chercher. Et là, nous avons en réalité deux possibilités, selon les versions, les manuscrits, etc. Nous avons deux versions possibles. Nous avons deux raisons pour lesquelles le mari revient. Nous avons une raison un peu plus récente, plus moderne. Il aime tellement sa femme qu'il revient lui dire encore une fois adieu. Alors vous voyez, là, ça crée l'antithèse, c'est tout le monde hein, est heureux. Ça, c'est... Et nous avons une raison beaucoup plus archaïque, beaucoup plus ancienne. Il revient chercher un talisman pour le voyage, qui rend son voyage propice. Voilà pourquoi il revient. C'est pour un talisman. D'accord ? Et donc, d'où l'importance. Il ne peut pas partir sans. Il faut absolument qu'il le prenne, parce que pour que son voyage se déroule bien. Et là aussi, il y a une forme d'antithèse qui se tisse, parce que son voyage, comme vous le savez, elle a tout à fait raison, il se passe très mal dans tous les cas. Hein. Voilà. Donc ça, c'est quelques remarques que je voulais faire sur le début pour repartir sur la conteuse. Mais sinon globalement, c'est une très, très belle performance. Hein, et vous avez entendu... Le récit cadre tel qu'il se trouve dans les ouvrages. Alors peut-être quelque chose d'autre hein, qu'il convient de souligner, c'est pourquoi Shahrazad va intervenir. Alors elle l'a dit, elle l'a bien dit, c'est pour aider son père, c'est pour sauver son père parce qu'il ne trouve plus de jeune fille. Mais nous avons une autre version. Et dans cette autre version, quand le roi se met à tuer les jeunes filles les unes après les autres, à décimer, pour ainsi dire, la population de la ville, à détruire lui-même son propre royaume, eh bien, la population, évidemment, est en émoi. Elle ne peut pas rester impassible. Elle commence à adresser des prières au ciel pour qu'il la délivre d'un tyran. Et ça, c'est très important. Et c'est à ce moment-là, non pas parce que le vizir ne trouve pas de jeune fille dans cette version-là, mais parce que la population s'adressant au ciel, le ciel trouve quelqu'un pour porter, hein, lui porter secours et ramener la justice, et c'est Shahrazad. Et ça, c'est très intéressant. C'est les mille et une nuits davantage islamisées, avec évidemment Dieu en justicier au-dessus de tout le monde, au-dessus du roi, et c'est lui-même qui va déléguer hein, une partie de son pouvoir à un personnage choisi, à une élue. Hein. Et là, c'est très intéressant, pour une fois, nous avons une élue, hein, donc, hein, qui va intervenir pour sauver la population et sauver le royaume. Donc ça aussi, il y a un enjeu intéressant là-dedans, dans cette variation avec la population qui s'adresse...
Alors, je vous écoute avec, comment, sauf si notre conteuse demande un droit de réponse, non ? Oui ? Non ? Ah non, non, Muriel, oui.
Je veux savoir si quand même elle a le choix chez Shahrazad, puisqu'il n'y a plus d'autres femmes telles que le récit le raconte. Est-ce qu'elle a vraiment le choix de se dérober à la volonté du roi ?
Alors,
merci Muriel. Réponse.
Oui, c'est-à-dire que nous sommes dans une fiction, d'accord ? Et dans une fiction, absolument, comme vous le savez, hein, absolument tout est possible. C'est l'avantage de la fiction, d'accord ? Donc absolument tout est possible. Et là, moi, je ne parle pas d'une Shahrazad ayant le libre arbitre, je parle des textes, des différents textes que j'ai entre les mains. J'ai des textes entre les mains où le père ne trouve plus de jeune fille et Shahrazad intervient pour le sauver et lui-même va tenter de la dissuader, comme ça a été très bien expliqué, d'intervenir. Alors, ce qu'elle lui dit pour le persuader son père, elle lui dit que si tu ne me laisses pas épouser le roi, je lui ferai savoir que tu ne le juges pas digne de ta fille. Et là, le vizir... Évidemment, oui. Donc, Donc, je disais, ça, c'est-à-dire, ce sont des, c'est ce que le, des textes différents, parce que nous avons plus d'une centaine de manuscrits différents des Mille et une Nuits. D'accord ? Et il y a, sur, il y a plusieurs familles, et disons, il y a deux familles de manuscrits que l'on connaît plus ou moins. C'est une famille qui a été, c'est le manuscrit qui a été traduit par Antoine Galland au début du XVIIIe siècle, qui lui s'arrête au bout de 280 nuits à peu près.
Vous avez brûlé des étapes.
Parce oui. Que
je... Ah oui, pardon. Oui. Merci. Voilà. Vous avez brûlé quelques étapes. Je voudrais quand même, parce que je me demande si finalement votre rapport au conte des Mille et Une Nuits, je parle du public, n'est pas le mien en ce sens que je crois que c'est un conte qu'on croit connaître. Mais tant qu'on ne nous demande pas de le résumer, c'est un peu comme le temps dont parle saint Augustin. Le temps, je sais ce que c'est tant qu'on ne me demande pas de le définir. Quand on me le demande, je ne sais plus. Et je suis dans cette situation, comment, par rapport au conte des Mille et Une Nuits, d'où mon invitation, Aboubakr Chaibi, de nous rappeler, non pas les Mille et Une Nuits, une nuit, les contes correspondants, mais l'histoire même de ce conte qui débute au 8e, 9e siècle, quelque part dans la Perse, qui se diffuse dans l'ère arabo-musulmane, qui arrive jusqu'en Europe, en France, avec cet Antoine Galland que vous avez cité. Mais à vous de raconter brièvement cette histoire qui vaut déjà en soi un récit.
Entendu. Alors, c'est-à-dire que là, on va reculer vraiment dans le temps, hein, et on va se placer à Bagdad au tournant du 8e, 9e siècle. C'est à ce moment-là, semble-t-il, qu'on a traduit un ouvrage. Alors, la Perse n'a pas connu les Mille et Une Nuits. Soyons clairs là-dessus. L'appellation, le nom Mille et Une Nuits, Alf, Leïla ou Leïla, a été créé justement ce 8e, 9e siècle, dans le monde arabe.
À partir d'un conte persan.
Alors, c'est là où il y a des subtilités. Ah. On ne peut pas... Voilà, c'est, je suis désolé. Hein, je ne peux pas dire oui, non. C'est souvent comme ça. Alors,
mais vous l'avez écrit, quand même.
Oui, je sais ce que j'ai écrit. Bon, mais c'est justement... C'est développé, c'est à développer. D'accord. C'est le récit cadre. Les Mille et Une Nuits, elles sont... Le récit cadre, c'est ce qu'on a entendu. Mais nous n'avons pas entendu ce que Shahrazad a raconté au roi. Ça, c'est autre chose. Et je vous ai parlé des 101 nuits. Et le récit cadre des 100 nuits n'est pas, et il est plus ancien que celui des Mille et Une Nuits, n'est pas exactement le même, etc. Bon, je reviens à l'histoire du texte. Donc, nous avons un récit cadre, c'est-à-dire l'histoire de Shahrazad avec les deux frères, parfois qui ne sont pas deux frères, mais qui sont juste un homme et un autre homme qui veulent se voir pour disons quelque chose d'un peu plus spécial. Nous avons un récit cadre, et ce récit cadre, c'est ce qui vient de Perse. Et le livre qui contenait ce récit cadre persan s'appelait « Mille contes ». Hezar Afsan, traduit en arabe par Al-Khurafa, « Mille contes ». Et là, vous voyez la différence qu'il y a, essentielle qu'il y a quand même, entre « Mille contes » et « Alf Leïla wa Leïla »,« Mille et une nuits ». L'un est spécifié, dit clairement ce qu'il contient, beaucoup d'histoires. Il est construit, si vous voulez, sur le même modèle que l'ouvrage de Somedeva indien, l'océan où se déversent les rivières des contes. Ah, vous voyez, là, vous allez en trouver des contes. D'accord ? C'est l'océan où se déverse le Katasari de Sagara. Mais arrivé dans le monde arabe, non. On a changé le titre, mais on va faire raconter à Shahrazad d'autres choses en Mille et une nuits. Et là, vous avez simplement une indication temporelle. C'est-à-dire que ce qu'on a mis au devant du lecteur, la première chose, c'est le temps qui passe. Et la perspective change complètement. Nous avons du temps à vous offrir. D'accord ?
Pas ce soir.
Ça,
hein.
C'est très précieux. D'accord ? Donc, l'histoire du livre commence par cette transformation, au niveau déjà de l'identité d'un ouvrage qui va devenir autre chose, et on va prendre ce récit cadre pour mettre dedans d'autres histoires. Parce que la première histoire que va raconter Shahrazad, c'est une histoire qui se passe dans une oasis, dans le désert, avec un djinn et un marchand qui s'assoit pour manger des dattes. Vous voyez la signature de cette histoire. Nous sommes déjà dans le monde arabe. Ça, c'est la première histoire qu'elle raconte. Donc, vous voyez, on a pris le récit cadre du Hazar Afsan Persan, et puis on s'est mis à faire raconter d'autres choses à Shahrazad. Sachant que cette histoire, pour quelqu'un qui a une culture arabe classique, la première histoire racontée par Shahrazad va lui rappeler une histoire que le prophète lui-même raconte à son épouse. Donc, vous voyez le réseau textuel qui se met en place et les références, comment elles-mêmes, comme nos histoires gigognent, il y a des références à l'intérieur des références, etc. Voilà, c'est une culture qu'il y a derrière. Voilà. D'accord.
Et je brûle des étapes, comment le conte circule jusqu'en Europe, entre les mains d'Antoine Galland, on est au XVIIIe siècle, et qu'il le traduit donc en français, en procurant du coup la matière qui servira aux traductions en d'autres langues européennes. Et là également, il l'enrichit d'autres contes dont il prend connaissance. Mais je vous laisse le soin de rappeler
Alors,
cet épisode.
Bon. Donc, du 8e, 9e siècle au début du 18e siècle. Alors, effectivement, on va brûler beaucoup d'étapes,
ouais.
Je vais simplement en rappeler une parce qu'elle est très importante. C'est le moment où l'ouvrage est traduit en turc osmanli, en turc ancien. Et ces traductions sont commanditées par le sultan lui-même pour sa bibliothèque personnelle. Pourquoi c'est très important de marquer cette étape? Pour montrer que les Mille et une nuits, un siècle par exemple avant Galland, ont été traduites en turc à la demande du sultan turc. C'est-à-dire que les Mille et une nuits n'étaient pas du tout un ouvrage en Orient qui était délaissé, abandonné, et que Galland est arrivé et a fait connaître quelque chose qui était en train de se perdre, comme on peut le lire souvent, hein, mais que c'était un ouvrage grandement apprécié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comment Galland lui-même a-t-il découvert les Mille et une nuits? Eh bien, il l'écrit dans son journal, c'est grâce à un ami syrien. C'est-à-dire que nous avons des Syriens d'Alep, qui étaient en France et qui ont servi de passerelle, et c'est eux qui vont lui procurer ces manuscrits des Mille et une nuits. Au départ, Galland, tout ce qu'il avait, il avait une version de Sindbad le marin, qu'il avait commencé à traduire. Et puis, il est absolument heureux, il trouve ça assez formidable, surtout c'était la vogue des contes de fées, hein, n'est-ce pas, avec Perrault, Madame d'Aulnoy, etc. Et il est très heureux de découvrir des choses d'une toute autre facture. Et un ami lui dit, mais non, mais ça c'est rien, Sindbad, il faut avoir les Mille et une nuits. Et ça, c'est cet ami syrien. Et il lui demande s'il peut avoir un manuscrit, et là, on lui envoie d'Alep le fameux manuscrit qu'il va traduire. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, c'est-à-dire que le rôle de ces passeurs syriens présents en France ou qui arrivent de Syrie est très important, puisque vous connaissez Aladdin, Ali Baba. Ce n'est pas... Oui, absolument. Y compris les voleurs. Ali Baba et ses voleurs. Donc voilà. Et bien, ce n'est pas Galland, ce n'est pas les Mille et une nuits. C'est un jeune homme, Hanna Diab, qui était de passage à Paris, qui a raconté ça oralement à Galland. Et Galland n'a rien dit. Il a noté pour certains les résumés dans son journal, le jour de la rencontre, les résumés des contes. Et puis ensuite, il les a traduits comme s'ils faisaient partie intégrante des Mille et une nuits. Il n'a pas mentionné l'existence de Hanna Diab, et c'est quelque chose qu'on a appris très récemment, vraiment très récemment, grâce à une œuvre remarquable d'un chercheur, Abdel Halim, un Tunisien, qui a fait un ouvrage qui s'appelle « Antoine Galland, sa vie, son œuvre » et qui met tout cela en lumière. Voilà.
avant d'entendre des questions de la salle, encore une question, jusqu'à ce que vous évoquiez la transmission orale auprès de Galland. Un des mots que vous avez le plus utilisé, c'est manuscrit. Hein, oui. Les contes des Mille et Une Nuits sont écrits, ne participent pas d'une tradition orale. Je fais mon savant, mais il m'a rappelé alors dans l'entretien préparatoire qu'on a eu. Je m'en suis souvenu. Et c'est important parce que c'est aussi l'occasion de dire que ça participait, c'est vos mots, d'une littérature médiane. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, alors comme je l'ai dit, nous avions un ouvrage persan duquel on a extrait un récit cadre qui a été traduit pour fabriquer un ouvrage arabe. On suit tout cela à la trace, que ce soit les manuscrits arabes ou leurs traductions turques, ensuite françaises, etc., etc. Donc, en réalité, nous avons une tradition écrite. Et cette tradition écrite, elle est écrite dans une langue elle-même, une langue, ce qu'on appelle le moyen arabe, c'est-à-dire un arabe intermédiaire entre le dialecte parlé et l'arabe classique écrit. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait ce qui s'écrit, ce n'est pas tout à fait ce qui se parle. Mais aussi bien ceux qui connaissent bien le dialecte que ceux qui connaissent l'arabe classique vont comprendre. Donc c'est quelque chose qui s'adresse à un public extrêmement large, qui comprend des savants. Et c'est les Mille et Une Nuits sont aussi une littérature mixte, c'est-à-dire elle mêle la prose et la poésie classique, on les trouve dans les Mille et Une Nuits. Évidemment, la traduction de Galland qui a vulgarisé les Mille et Une Nuits, Galland n'a pas traduit la poésie. Et du coup, on a l'impression qu'il n'y a que de la prose. D'accord ? Mais par à la fois l'effort stylistique, l'effort intellectuel, parce qu'il y a des données historiques dans les Mille et Une Nuits. D'accord ? Il y a une introduction et une conclusion assez importantes, etc. Donc, tout cela montre que nous sommes dans une littérature qui veut atteindre le plus large public et qui a été faite par des lettrés, parce que non accès à l'écrit, de toute façon, imaginez déjà un traducteur qui doit connaître bien deux langues et les écrire et les lire. Donc, et ça à une époque où les lettrés étaient une infime minorité. L'accès à l'écrit, le livre est un objet extrêmement précieux. Ça coûte très cher un manuscrit. D'accord ? Et d'ailleurs, dans nos manuscrits, les manuscrits que j'ai, on l'empruntait, on ne l'achetait pas. Et c'était écrit à la marge. Je l'ai emprunté à tel prix pour le voyage. C'était un riche marchand qui se l'est permis pour mon voyage, pour me distraire durant mon voyage. Et il écrit ça à la marge. Et le montant. Donc, nous avons... Mais ce n'est pas tout à fait une littérature classique. Ce n'est pas une littérature académique. Mais ce n'est pas non plus une littérature populaire, dans le sens où c'est une littérature transmise vraiment par le peuple, pour le peuple, etc. Non, c'est quelque chose qui est intermédiaire. C'est une littérature moyenne, médiane ou moyenne, et il faut lui trouver cette place.
Et alors, désolé, j'ai encore un point à développer. Littérature médiane et subversive.
Bon, les Mille et Une Nuits, les Mille et Une Nuits.
Il fait comme ça parce qu'il sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps pour répondre, mais que la question mérite.
Oui, oui, parce que il y a effectivement énormément de choses à dire. Mais ce que je voulais dire en substance, parce que on peut aussi être bref, en substance, la réussite universelle des Mille et Une Nuits, indépendamment de la religion, de la politique, de la langue des lecteurs à l'échelle du monde, est une garantie de leur très grande ouverture. À partir de là, comment ne pas être subversif ?
Réaction.
Je peux faire. C'était.
Le micro, on vous donne le micro parce que c'est une question d'enregistrement aussi. Voilà, merci de faire circuler le micro.
Excusez-moi de revenir, mais moi je voudrais appuyer ce dont a parlé Muriel Bloch sur la posture de Shahrazade, parce que vous dites que c'est subversif. Shahrazade, on peut la voir de deux façons. Soit c'est une femme qui a été totalement coincée, opprimée, obligée pour pas mourir, de sauver toutes les femmes symboliquement, en écoutant, en parlant. Hein, ça nous rappelle, nous, le conte, la mère des contes, enfin des trucs comme ça. Ou alors, ça peut être, je dis ça, j'ai aucune connaissance, moi, scientifique hein, ou littéraire, mais où ça peut être... je voudrais savoir qu'est-ce que vous mettez derrière subversion par rapport à Scheherazade, parce que c'est quand même celle qui porte
très bien
tout
je,
ça.
Je vais concentrer mon propos sur Scheherazade, d'accord. Voilà. Alors c'est-à-dire ce qu'on peut dire de Scheherazade, c'est selon les textes qu'on a sous les yeux. Ce n'est pas ma Scheherazade, c'est la Scheherazade de tel texte, de telle version des Mille et Une Nuits. Entendons-nous bien. D'accord. Donc, dans la version des Mille et Une Nuits, par exemple, celle qui a été traduite par Galland, nous avons un premier obstacle dans celle traduite par Galland, c'est la population qui s'adresse à Dieu, etc. Elle intervient comme ça. Il n'y a pas de... Son père, le vizir, n'a pas de difficulté à trouver une jeune fille. C'est elle qui prend sur elle, tout à coup, elle dit à son père, laisse-moi épouser, c'est-à-dire elle veut se met en position de défendre la population. Alors maintenant, si on réfléchit bien, c'était le rôle de qui de défendre la population et de ne pas livrer des jeunes filles innocentes au roi? C'était le rôle de qui? Eh bien voilà, vous l'avez dit. Mais ce vizir... Quel est le mot, l'adjectif qui lui correspond le mieux? S'il est complice ou bien incompétent. Parce que lui-même, lui qui doit défendre, c'est le technocrate, hein, c'est lui qui fait fonctionner le royaume en réalité. C'est lui qui empêche le roi de détruire son propre pouvoir. C'est ce qu'il était en train de faire. Mais ce vizir est totalement incompétent, il ne fait rien. Et au contraire, il est en train d'aider le roi, il est complice, mais alors totalement du roi, dans la destruction de son propre royaume. Et à terme, lui-même, tout le monde va tout perdre. Et c'est là qu'intervient Scheherazade. Et comme la conteuse l'a bien dit, elle va se trouver en face, son premier obstacle, c'est qui? Pour pouvoir épouser le roi, c'est son père. Alors, vous l'avez dit, c'est à la fois un homme, c'est une femme. Il faut l'affronter. C'est à la fois son père et elle est la fille. C'est à la fois le vizir et elle n'est rien. Et pourtant, elle va réussir à le battre. D'accord ? Donc, elle a franchi ce premier obstacle avant d'avoir à franchir encore un plus gros obstacle qui est celui du roi. D'accord ? Mais pour le roi, elle avait besoin d'une aide. Et c'est pour ça que sa sœur, elle a besoin d'une aide de sa sœur. Et sa sœur est extrêmement... lui offre une aide extrêmement précieuse, indispensable, parce qu'elle a besoin d'un auditeur, en l'occurrence une auditrice, modèle, qui montre comment il faut comprendre ce qu'elle dit et quelle valeur il faut lui donner. Parce que quand elle a, d'abord, sa sœur l'interpelle en lui disant « Raconte-moi une de tes très belles histoires dont tu connais le secret, etc. » Alors le roi, il dit « Très belle histoire. Bon, d'accord, vas-y, raconte-lui. » Mais entre-temps, du coup, sous prétexte d'avoir l'oreille de sa sœur, elle a aussi celle du roi. Et là, une fois qu'on a l'oreille du roi, il y a une grosse marche qu'on vient de franchir, de monter. Là, on grimpe. Et ensuite, sa sœur, à la fin de la séance, lui dit oh, « Comme ton histoire est extraordinaire !» Et l'autre lui dit « La suite le sera encore plus !» Le roi a quelqu'un devant lui qui dit que cette histoire est extraordinaire. Voilà, il veut lui aussi avoir la suite. Donc, nous avons une modélisation du roi et elle fait le travail du vizir, la Scheherazade. Et maintenant, nous avons une femme intelligente qui remplace un père incompétent, un homme incompétent, pour calmer un petit peu la folie du roi et essayer de ramener la paix au royaume. Alors maintenant, je peux continuer là-dessus longtemps, mais ça suffit, hein, n'est-ce pas?
Bon. Juste un point, non. On vous écouterait des heures.
D'accord, bon.
Juste un point. N'oubliez pas la citrouille. Voilà. Oui. Non, plus sérieusement, oui. Vous écrivez que, en fait, Scheherazade a un sens du politique. Est une politique.
Bien sûr. Mais ça, c'est... Alors, je reviens encore en arrière, parce que les Mille et Une Nuits, au départ, c'est un miroir des princes. C'est un miroir des princes, comme le Kalila Edimna, le Panchatantra, comme le prince de Machiavel, etc. Il est là pour faire l'éducation des gouvernants. Et là-dedans, alors, juste à propos des femmes, pourquoi je dis leur éducation? Parce que l'éducation passe par apprendre quelque chose. Pour apprendre quelque chose, il faut d'abord se rendre compte qu'on l'ignore. Si on a l'impression qu'on sait tout, la tâche devient très difficile, n'est-ce pas? Et les mille et une nuits jouent sur une émotion qu'on ne trouve pas dans les traductions, mais qui est une émotion extrêmement importante. Et parce que comme elle se répète, c'est un terme qui se répète en arabe pratiquement toutes les phrases. Il y en a des dizaines d'occurrences par page. C'est le ajab. Ajab qu'on peut traduire par étonnement. Ajab. Mais qu'est-ce que c'est que l'étonnement? Le roi, quand il découvre que sa femme le trompe, il est étonné. Qu'est-ce que c'est que l'étonnement? On s'étonne de quoi? Ben de ce qu'on ignore. Et donc, quand il s'étonne, ça veut dire que, ben, il n'est pas blasé, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le monde qui lui échappe. Et les deux rois vont s'étonner systématiquement de quoi, tout au long du récit cadre, du comportement des femmes. Ça veut dire qu'ils ne les connaissent pas. Eh bien, voilà. Eh bien, Shahrazade a du travail. Voilà.
Mais du coup, sauf s'il y a une question, quelle est une question qui me vient à l'esprit? Ah, on me cite, pardon.
Une question qui me vient à l'esprit, là, en vous écoutant, mais du coup, quelle est la réception actuelle du conte des Mille et Une Nuits dans le monde et dans certains pays où le sort des femmes...
Alors, la réception actuelle des Mille et Une Nuits, ça, c'est une question extrêmement difficile, hein. Parce qu'une réception, ça veut dire comment les mille et une nuits vont être racontées, reprises, etc. C'est comme ça qu'on peut juger la réception. C'est quand quelqu'un vous parle des mille et une nuits. D'accord? Alors, on a la réception des mille et une nuits. C'est un océan tout seul, parce que ça commence par les reprises, les imitations, les mille et un jours, les mille et une fadaises, les mille et un farnequins, etc. Il y a toutes sortes de choses comme ça. Dès le XVIIIe siècle, il y a la naissance du conte oriental. Le conte oriental, on le doit aux mille et une nuits. Bref, mais plus globalement, je dirais, en ce qui concerne par exemple le monde arabe et Internet et la lecture des mille et une nuits, il y a un site avec tous les ouvrages de littérature classique, mais y compris les Mille et une nuits, comme elles sont écrites, etc. Eh bien, l'ouvrage le plus commenté et le plus lu, mais de loin devant tous les autres, dans le monde arabe, ce sont les Mille et une nuits.
Incroyable. Voilà. Madame, micro pour madame. Le micro.
Oui, oui.
Je parle assez fort. Oui, c'est juste un...
Je voulais vous demander, mais peut-être que je n'ai pas bien enregistré, j'ai cru comprendre que vous aviez dit que Galland avait pris des notes de ce qu'on lui avait raconté. Mm-hmm, mais moi, j'ai eu l'édition bouquin là, en deux tomes. Ça fait au moins 1500 pages.
Ah, oui,
mais il n'a pas pu se souvenir ou
voilà,
il en a rajouté.
L'édition bouquin en deux volumes, c'est la traduction de Joseph Charles Mardrus.
Ah, ouais, d'accord.
Donc, c'est encore une autre histoire.
Mais enfin, c'est rajouté. C'est
là, pas... j'essaie d'être. Bref.
Ça ne peut pas être le fruit de quelques notes.
Non. Quoi? Non, mais ce n'est pas la même personne, ce n'est pas la même époque. C'est une autre traduction. C'est la traduction réalisée par Mardru à la fin du 19e, début 20e siècle.
Mais il y a quand même des ajouts, alors.
Ah, mais c'est autre chose.
Alors, du coup.
Voilà, c'est autre chose.
Le prolongement, je demande un éclaircissement. J'avais cru comprendre que Antoine Galland s'était quand même appuyé sur la seule version manuscrite encore existante datant du XVe siècle. Donc, c'est une erreur.
C'est-à-dire, Antoine Galland s'est appuyé sur le manuscrit qu'il a reçu de Syrie. Il en a reçu d'ailleurs plusieurs.
Voilà, d'accord.
Et il a utilisé essentiellement celui, le 3609-3612 actuellement à la BNF. Mais il en avait d'autres. Il avait aussi un manuscrit, un morceau d'un manuscrit turc. Il avait d'autres manuscrits qui n'étaient pas des Mille et une nuits, etc. Tout cela a été bien travaillé. L'état de savoir est assez bon là-dessus. Maintenant, ce qui s'est passé pour Galland essentiellement, c'est qu'il s'est appuyé sur d'autres sources, c'est-à-dire quelqu'un Et ça, ça a un petit peu, comment dire, altéré la perception en Occident des Mille et Une Nuits, parce que Aladdin et Ali Baba, ce sont des contes populaires. Les deux sœurs jalouses de leur cadette, qu'ils rajoutent aussi, c'est un conte populaire. La fée, le prince Ahmed et la fée Paribanou, c'est un conte populaire. Tout cela lui a été raconté oralement. Et lui, il l'a un peu littérarisé, il l'a transformé un peu à la manière des Mille et Une Nuits, il l'a rajouté sans rien dire. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un ouvrage hybride, en réalité. Il y a mieux que ça. Son éditeur a rajouté à sa traduction deux contes qui lui appartenaient même pas. Ce n'était ni Galant ni les Mille et Une Nuits, ça a été rajouté. Bon, c'est ce qu'on appelle la fameuse affaire du huitième volume. Bon, alors, donc vous voyez, le texte qu'on a, chaque partie du texte qu'on a entre mains, les textes n'est pas homogène. Et la traduction de Galant ne l'est pas. D'accord ? Et ben, voilà ce que j'avais à dire là-dessus.
Et Mardrus, c'est encore pire.
Mardrus, il a pris un ouvrage qui vient d'Inde, traduit par un professeur des langues eaux, qui n'est pas en arabe, et il a pris des contes qu'il a rajoutés dans ses Mille et Nuits. D'accord. Il a pris un autre ouvrage de contes recueillis en Égypte et de certaines parties, il les a rajoutés dans ses Mille et Une Nuits. Voilà, vous voyez, c'est...
Madame ? Ça sera peut-être...
Pendant très longtemps,
ouais,
bon. J'entendais parler des Mille et Une Nuits. Un tsar, non pas un tsar, comment c'est, le roi sanguinaire qui zigouillait toutes les femmes après en avoir abusé, hein, qui prenait que des pucelles, bon, et puis c'était tout. Et puis j'ai découvert le préambule qui nous a été si admirablement raconté il n'y a pas très très longtemps, et pour dans ma génération, c'est-à-dire d'avant-guerre, hein. Les Mille et Une Nuits, ça commençait simplement par les massacres du sultan. Si bien qu'on trouvait encore moyen de dire que ces Arabes étaient vraiment des gens sanguinaires. Mais on n'avait pas le début de l'histoire. Et maintenant, on se fait un plaisir de commencer les Mille et Une Nuits toujours par le début de l'histoire. C'est très important, je crois.
Ah oui, absolument. Toujours.
Une question là-bas, au fond. Et puis là, on va prendre peut-être les deux questions. Ça sera les dernières, malheureusement. Je me permettrai d'en glisser une. Monsieur ?
Oui, moi, c'était une question rapide. C'est du coup, qui a écrit les Mille et Une Nuits ? En fait, d'où ils viennent ? Et est-ce que c'est des contes qui... Est-ce que j'ai pas... Vous ne m'entendez pas, c'est ça ? Ah, excusez-moi. Qui a écrit les Mille et Une Nuits, du coup, si ce n'est pas des contes populaires ? Et est-ce que quand même c'était des contes qui tournaient dans l'air du temps, qui étaient connus du peuple ? Enfin, est-ce qu'il y a un auteur qu'on connaît ? Et sinon, est-ce qu'il les a écrits lui-même ou est-ce qu'il les a pris d'ailleurs ? Voilà.
C'est-à-dire, les Mille et Une Nuits, comme je l'ai dit, quand Galant les a traduites, il avait un manuscrit sous les yeux, un manuscrit anonyme. Et cette littérature, la littérature médiane, parce que pourquoi je me permets de parler de littérature médiane, c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas assez développé, c'est parce qu'il existe des centaines d'autres ouvrages du même genre, écrits avec la même langue, du même style. Parfois, des histoires qu'on trouve dans les Mille et Nuits sont dans ces autres ouvrages, dans un état mieux conservé que dans les Mille et Nuits, etc. C'est-à-dire que nous avons toute une littérature autour des Mille et Nuits qui est du même genre. C'est pour ça qu'on peut parler d'un genre, d'une littérature médiane. Si les Mille et Nuits étaient isolés, évidemment, mais un texte comme ça ne peut pas rester isolé pendant 1000 ans dans le monde arabe. Personne ne l'imite, personne ne fait rien, etc. Ça paraît insensé. Alors que dès son arrivée en France, au bout de 10 ans, on avait plusieurs ouvrages qui l'ont imité. Et c'est pareil, nous avons même un ouvrage d'un lettré qui a fait 40 nuits. De 40 nuits du 11e siècle, et lui-même il s'habille en Scheherazade, puisqu'il dit ce n'est pas comme les Mille et Une Nuits qui sont pour les gens déraisonnables, ça c'est un ouvrage de philosophie, etc. Mais il a nettement moins bien marché que...
Voilà. Madame, il faut appuyer. il faut appuyer toujours. Mille et une fois.
Oui, je voudrais. Ah oui, vous avez dit que Les Mille et Une Nuits, c'était l'ouvrage le plus répandu et le plus connu dans le monde arabe. Et moi, j'ai souvent entendu dire que c'était le Kalila et Dimna qui était le plus lu dans tout le monde arabe.
Alors, le Kalila et Dimna, il a conservé la langue classique. Et c'est un recueil, alors juste pour précision, c'est un recueil de fables animalières comparables, avec un récit cadre comparable. Certaines fables ont été reprises par La Fontaine, qui cite d'ailleurs un personnage de Kalila et Dimna, c'est le fameux Bilpaï dont il parle dans son prémasse. Bon. Bref, donc nous avons, c'est des fables animaires, c'est un miroir des princes. Ce qui s'est passé pour Kalila et Dimna, comme pour La Fontaine, c'est que comme c'était de l'arabe classique, avec une bonne grammaire, on l'a intégré dans les écoles. Mais on a retiré du Kalila et Dimna une très belle introduction sur les religions, où en substance un médecin dit qu'il a beau guérir les gens, et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien faire et que finalement la mort est toujours là, et donc c'est une affaire de religion. Alors il a cherché les religions, qu'est-ce qu'elles disent et quelle est la meilleure à suivre, et puis il s'est rendu compte que c'était encore plus compliqué que la médecine, parce que chacun dit « ma religion est la meilleure », mais il ne connaît nul autre que la sienne, et que finalement, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, l'écrasante majorité ne font que reprendre la religion de leurs ancêtres sans se poser de questions. Voilà. Et sinon, il y en a effectivement qui changent de religion, mais dont il y a deux cas majoritaires, c'est ou bien parce qu'ils y trouvent un avantage quelconque, ou bien parce qu'ils y sont forcés et qu'ils n'ont pas le choix. Mais sinon, on reprend la religion de ses ancêtres. Et donc, il y a cette très jolie introduction dans Kalila et Dimna. Il y a d'autres choses qui ont été un petit peu oubliées pour les écoliers. Donc, Kalila et Dimna a joué le même rôle que le renard et le corbeau ici en France. Voilà.
Ne soyons pas frustrés. Il y a la possibilité de découvrir plus amplement le travail d'Aboubakr Shaibi en le lisant. On le lit avec autant de plaisir qu'on boit ses paroles. Donc plongez-vous dans ses écrits. Et puis on peut l'écouter à la radio. Vous intervenez, vous êtes intervenu à différentes reprises et vous découvrirez qu'il a aussi une voix radiophonique. Donc pas de frustration. Merci beaucoup, Aboubakr.
Merci. Et je voudrais qu'on l'applaudisse pour la soirée qui nous fait passer. Hein. Merci. Et je remercie bien entendu la fondation qui m'a invité, qui nous a si bien accueillis ici. C'est vraiment un endroit merveilleux parmi les livres. Hein, et dans cet endroit, je trouve vraiment qu'on est très, très bien accueillis ici. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous.
Et ce n'est pas fini, puisque de nouveau, nous allons avoir la chance d'entendre Sylvie Mombeau, n'est-ce pas ? Voilà, tout oui. Et nous enchaînerons sur la dernière séquence qui nous expliquera comment les contes nous sont utiles pour appréhender les enjeux écologiques. Sylvie Mombeau.
Eh bien, cette fois-ci, nous allons aller vers le Grand Sud. Nous allons partir dans la forêt équatoriale. Nous allons partir loin et il y a longtemps. Il était une fois un village entouré par la grande forêt équatoriale. Et dans ce village, les gens avaient eu un jour converser avec les plantes et les animaux. Mais ils ne le faisaient plus. C'était même devenu interdit, complètement. Dans ce village vivaient trois sœurs, et la dernière des trois sœurs, la plus jeune, elle s'appelait Matsang, c'était son prénom, elle. Elle parlait aux plantes et aux animaux, aux plantes surtout. Lorsque Matsang s'arrêtait devant un arbre, elle lui disait « Bonjour ». Et quand sa sœur aînée l'entendait, elle lui disait « Matsang !»« Arrête de faire ça !»« Que vont dire les gens du village s'ils t'entendent, hein ?»« C'est interdit !» Alors elle continuait à le faire, mais en cachette. Ce jour-là, c'est la première journée de la saison des pluies. La sœur aînée envoie Matsang chercher du bois mort dans la forêt. C'est la toute première fois qu'elle est envoyée seule. Alors elle prend un baluchon, elle le pose sur son épaule, elle quitte la case et elle emprunte le chemin de terre rouge. Elle passe devant la colline où se tient la sentinelle, le garde, celui qui surveille le village au cas où un étranger. On ne sait jamais. Elle salue la sentinelle et avance, suit son chemin, et plus elle s'éloigne du village et plus elle se sent libre. Plus elle s'éloigne du village et plus elle se sent légère. Tellement légère qu'un tout petit papillon vient se poser là sur le bout de son nez. Et le papillon s'envole, vole autour de sa tête, et elle essaye d'attraper le papillon qui s'envole, vole autour de sa tête, et c'est exactement comme ça que l'enfant Matsang entre dans la grande forêt équatoriale ce jour-là. Elle perd son chemin, mais elle n'a pas peur. Au contraire. Elle s'arrête devant un ébénier. Il a le tronc large, son feuillage est luxuriant. Elle le regarde, elle lui dit « Bonjour ». L'enfant Matsang est tellement absorbé par l'ébénier qu'elle ne voit même pas le ciel noircir. Elle est tellement absorbée par l'ébénier qu'elle ne sent pas les gouttes de pluie tomber sur ses épaules nues. Elle est tellement absorbée par l'ébénier qu'elle ne voit pas la foudre zébrer le ciel, et pourtant... La foudre zèbre le ciel et vient s'abattre sur la cime de l'ébénier. Et aussitôt, en un seul fracas, l'ébénier tombe sur le sol, toute racine dehors. L'enfant sursaut, recule puis se rapproche, pose ses mains sur l'écorce de l'arbre. Sans même qu'elle ne s'en rende compte, une larme roule sur sa joue et vient s'enfoncer dans le sillon de l'écorce. Et elle sent sous ses mains l'écorce s'étirer. Elle recule. L'arbre se redresse. Et il écarte ses deux grandes branches supérieures comme s'il avait des bras. « Bonjour, Matsang. Ne pleure pas, je ne suis pas mort. Tu n'as fait que me réveiller. » Elle frissonne. Et comme l'enfant Matsang frissonne, l'arbre se baisse, la prend dans ses deux grandes branches supérieures et la pose là sur sa cime. Son ventre se met à gargouiller, et comme son ventre se met à gargouiller, l'arbre s'abaisse et lui cueille des baies. Et comme elle est perdue, l'arbre marche, toute racine dehors, et va vers le village. Et va vers le village. Au village, pendant ce temps-là, la sentinelle s'inquiète. L'enfant Matsang n'est toujours pas rentré, et voilà que la nuit est tombée. Les sœurs sont sorties de la case. On alerte les voisins et les voisines. On cherche de droite et de gauche. Mais la nuit est noire maintenant. La nuit est tellement noire que chacun rentre chez soi. On reprendra les recherches demain quand le soleil va se lever. Seules les sœurs restent là sur le seuil de leur case et elles scrutent l'horizon. Et bientôt, à l'inquiétude succède l'agacement. Est-ce qu'on n'avait pas dit à l'enfant Matsang qu'il ne faut pas traîner en forêt? Elle n'écoute rien. Et en disant ces mots, les sœurs voient au loin un arbre qui marche toute racine dehors. Et l'arbre porte sur sa cime leur petite sœur. Matsang, descends de là, dépêche-toi! Je vais te chicoter, dépêche-toi! L'arbre pose l'enfant Matsang sur le sol et de sa branche, il la pousse vers la case. Il promet qu'ils se reverront. Elle va vers ses sœurs et les sœurs la punissent. Elles ont peur. Si les gens du village apprenaient ça, l'enfant avec un arbre. Les sœurs punissent Matsang. 40 jours et 40 nuits sans sortir de la case, tu mangeras des ignames sèches, sans sauce, sans piment. Ah, c'est vrai, monsieur, vous avez raison, 40 jours, c'est long. Hein. Mais heureusement, il y a eu un 41e jour. Et au 41e jour, l'enfant Matsang est sorti de la case. Elle a pris le petit chemin de terre rouge que vous savez. Elle est passée devant la sentinelle. Elle n'a même pas écouté les recommandations. Elle a suivi le chemin. Elle est entrée dans la forêt et elle est allée là où vous savez. Et l'arbre était là. Il l'attendait, les deux branches grandes ouvertes, et elle est allée s'asseoir contre le tronc de l'arbre de son ébénier. Et elle lui a parlé. Elle lui a raconté. Elle lui a raconté ses sœurs, le village, les récoltes, les baptêmes, les mariages, les ennuis de petite fille. Et l'arbre a écouté. Et quand elle a eu fini de raconter, c'est l'arbre qui s'est mis à parler. Il lui a raconté la rosée. Il lui a raconté les toutes petites bêtes sur ses feuilles et dans son écorce. Il lui a raconté la forêt. Il lui a raconté le jour qui se lève et qui va se coucher. Elle l'a écouté. Ce jour-là, l'enfant Matsang et l'arbre sont devenus amis. Et le temps a... Il passe pas vite ici, hein. Mais au village, le temps a passé vite. Maintenant, je ne peux plus dire l'enfant Matsang parce qu'elle est... Comment vous dire, elle est... Tous les jeunes gens du village viennent frapper à la porte des trois sœurs. Chacun veut... Je voudrais épouser Matsang. Mais elle ne veut pas. C'est vrai. À tel point qu'un jour, la sœur aînée lui dit « Hé, Matsang, tu refuses tous les jeunes gens, mais tu es vieille. Tu vas avoir 17 ans. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu veux finir comme nous, avec un ventre sec, sans fruits dedans? Hein? » Les paroles l'ont blessée. Au point qu'elle a quitté la case, qu'elle a emprunté le chemin de terre rouge, au point qu'elle est allée dans la forêt, au point qu'elle est allée là où vous savez. Et il était là, comme toujours. Elle a raconté à son arbre. Il a écouté. Et il s'est rangé à l'avis des sœurs aînées. Il lui a dit, elles ont raison. Tu dois trouver quelqu'un qui sache t'écouter et que tu sauras écouter. Quelqu'un que tu auras envie de protéger et qui te protégera. Mais moi, la conteuse, oserais-je vous dire que mon héroïne avait déjà trouvé ce quelqu'un. Mais est-ce qu'un arbre et une jeune fille peuvent aller ensemble ? Dans ce cas-là, madame, messieurs, il faut aller voir le tradit praticien, le médecin feuille, le nganga. Oui ? Un genre d'homéopathe, en plus efficace. Voilà la jeune fille Matsang et l'arbre qui partent bras dessus, branches dessous. Traversent la forêt, gravissent les hauts plateaux et se rendent jusqu'au village d'Unganga. Et au Nganga, ils racontent leur amour. Et le Nganga écoute leur amour avant de renvoyer Matsang dans son village. Le Nganga garde l'arbre. Ensuite, il se prépare de la tisane de Bulukutu. Eh oui, il en aura besoin pour rester éveillé toute la nuit parce qu'il sait qu'il a du travail. Et il se prépare. Marteau, ciseaux, burin, coupe, cisaille, coupe. Le Nganga écorce vif le tronc de l'arbre. Toute la nuit, il travaille à sculpter, couper, cisailler, ciseler, poncer. Et au petit matin, le Nganga a créé une statue dans le bois, avec un nez large, épais, des yeux droits, des mains puissantes, des cuisses épaisses, des cheveux crépus. Le Nganga est content, se penche au-dessus de la statue de bois, souffle dessus, les paupières s'ouvrent, le cœur se met à cogner. Un nouvel homme est né. Et le nouvel homme remercie le Nganga, se redresse et marche droit devant lui. Et le nouvel homme est content de sentir la caresse du soleil dans ses cheveux crépus. Et le nouvel homme est content de sentir son cœur qui cogne dans sa poitrine, son cœur qui cogne d'amour pour elle, Matsang. Il entre dans le village. Il prend le chemin de terre rouge. Passe devant la sentinelle qui sursaute de voir un étranger dans le village. Mais ça, c'est qui ? L'étranger vient jusqu'à la porte des trois sœurs, va cogner, la porte s'ouvre, la sœur aînée est surprise. Surprise qu'un si bel homme, beau comme un prince, demande sa petite sœur, celle qui parle aux fourmis et aux plantes, en mariage. Matsang, viens là ! Lorsqu'elle le voit, dans ses yeux, elle lit que c'est lui. On les laisse ensemble quelques secondes seulement après qu'elle ait eu dit oui. Et pendant ces quelques secondes, l'un et l'autre se font une promesse, un serment d'amour pour toujours et un secret qu'ils vont garder. Nul ne devra savoir qu'il fut un temps où arbre il a été. Le mariage.
Waouh!
Une fête. 7 jours. 7 jours à danser, à manger, à rire, à se dire des contes, à converser, à manger encore et à boire beaucoup de vin de palme. Quelle fête! 7 jours. Mais au terme de ces 7 jours, la sentinelle a dévalé la colline et a hurlé à qui voulait bien l'entendre. « Des géants ! Il y a des géants qui viennent vers le village ! Ils sont en train de nous entourer ! Des géants, prenez vos armes ! Dépêchez-vous ! Prenez vos armes ! » Les géants. Tous les regards ont convergé vers le nouveau mari de Matsang. Avant que celui-ci ne prenne notre plus belle fille, il n'y a jamais eu d'étranger par ici. C'est de sa faute, à lui de nous sauver. On lui a donné les armes pour qu'il aille se battre là, à l'entrée du village, contre les géants. La sentinelle est remontée sur la colline. Tous les gens du village l'ont suivi, Matsang aussi. Et ils ont regardé ils l'ont vu, lui, le nouveau mari de Matsang, avec toutes ses armes. Il y est allé. Il est allé confronter les géants. Il s'est mesuré à eux. Et on a vu, hein, on a vu dans la clarté de la lune. On a vu que les géants l'ont soulevé, l'ont fait tournoyer. On l'a vu qu'il est tombé sur le sol plusieurs fois. On a vu qu'il s'était relevé. On a vu qu'il avait bataillé. Et on a vu qu'il avait mis les géants en déroute. Les géants sont partis grâce au mari de Matsang. C'est un véritable guerrier. Et comme sa peau est noire, nous l'appellerons le guerrier d'ébène. Lorsqu'il est revenu au village après sa victoire, seul Matsang était là pour l'accueillir. Elle lui a souri et il a répondu à ce sourire. Ils étaient les seuls à savoir que de géants, il n'y avait point eu. Pas du tout. Ce n'étaient pas des géants, non. C'était des arbres. Des arbres qui se sont déracinés pour venir jusqu'au village, dire adieu à l'un des leurs. Ils ne s'étaient pas battus. Non. Ils s'étaient étreints. Ils avaient dansé les uns avec les autres pour se dire adieu, tout simplement. Voilà. Maintenant, Matsang et son mari pouvaient vivre ensemble, se construire leur case, rien qu'à eux. Et c'est ce qu'ils ont fait, ensemble, tous les deux, du soir jusqu'au matin, les yeux dans... Merci beaucoup, Claire. Oui, c'est ça. Imaginez cette énergie de l'amour naissant. On n'a besoin de rien si ce n'est de se regarder. Être ensemble. Il est beau ce mot, non? Vous pouvez le dire hein, si vous voulez. Hein. Ensemble. Le bonheur, en vérité. Et ce bonheur... Il a duré quelques mois, peut-être un an, jusqu'à ce que la rumeur s'en mêle. Oui, ça vient toujours de là, la rumeur, celle qui va vite, vite, vite de bouche à oreille, celle qui dit « Eh, voisine, tu ne trouves pas que le mari de Matsang est bizarre ? Il est bizarre des... Je l'ai vu faire la sieste dans le champ l'autre jour. Il a enraciné son pied, il a dormi comme ça. Vrac ! Est-ce que tu veux dire comme un arbre ? Les sœurs aînées ont entendu et se sont souvenues. Elles ont convoqué Matsang et lui ont dit: tu dois choisir entre ton mari arbre et nous, ton sang, ta famille, ton clan, ton village. Mais comment choisir entre celui que l'on aime et ceux que l'on aime? Elle a pris le chemin de Terre Rouge. Elle a marché, s'est enfoncée dans la forêt. Elle est allée là où, vous savez, leur endroit, et il était là, son mari. Il était là, c'était comme s'il l'attendait. Elle s'est calée dans ses bras. Ils se sont agrippés l'un à l'autre. Et ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils n'ont pas senti les gouttes de pluie tomber sur leurs épaules nues. Ils n'ont même pas vu le ciel s'obscurcir. Ils n'ont pas entendu le tonnerre gronder, ils n'ont pas vu le ciel se zébrer, et pourtant le ciel s'est zébré, et un éclair est tombé exactement à la même seconde sur la cime de leur tête. À la même seconde, elle et lui sont passés de vie à trépas. On n'a pas retrouvé leur corps. Certains disent que peut-être ils auraient basculé de l'autre côté du monde ou peut-être dans les entrailles de la terre. Mais ce que l'on sait, c'est que à l'endroit où elle et lui avaient l'habitude de se rencontrer, deux arbres ont poussé, des ébéniers. Ils ont poussé tellement proches l'un de l'autre que leurs branches et leurs feuilles s'enchevêtrent comme s'ils s'embrassaient pour l'éternité. Eh bien, messieurs, mesdames, sachez que depuis cette histoire, dans ce village entouré par la forêt équatoriale, on a recommencé à parler aux animaux et aux plantes surtout, parce que l'on sait. On sait que les plantes et les humains partagent exactement les mêmes racines. De laisser la parole. Simplement, moi aussi, je voudrais formuler des remerciements pour cette invitation qui me touche énormément. Merci pour la qualité de l'accueil. Merci Sylvain Allemand, merci Monsieur Benjacri, merci beaucoup, merci.
C'est nous qui vous remercions, Sylvie Mombeau. Merci beaucoup.